Bonjour, merci d'être là. Merci à Pascal Lemaire de m'avoir invité pour cette conférence sur la macroéconomie aujourd'hui. Quelques mots d'explication un petit peu sur le cadre général de la conférence. Je suis Hubert Kempf, je suis professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et actuellement en détachement au service de la recherche de la Banque de France, ce qui explique cette affiliation ici, et puis évidemment le cadre d'ensemble, les bandeaux de cette présentation. Je suis là à l'occasion de la parution d'un nouveau manuel de macroéconomie et que Pascal Lemaire a eu la gentillesse de lire. Et cette parution est l'objet nous amène immédiatement à deux questions. D'abord, fallait-il écrire un manuel de macroéconomie? Et le cas échéant, est-ce qu'il y a de la nouveauté dans ce manuel qui est un petit peu représentatif des développements de la macroéconomie? Est-ce qu'il y en a eu donc? Et si l'on se dit en tant qu'enseignant présent ou futur que l'on pourrait avoir à le lire, il faudrait un petit peu savoir ce que l'on y trouvera et quel profit on peut y trouver en tant que lecteur. Et par profit, j'entends évidemment non pas le profit de l'auteur, mais le profit intellectuel du lecteur et le cas échéant de l'enseignant qui pourrait s'appuyer sur un manuel pour ses cours futurs. Et voilà, un exemple de manuel récent serait un manuel récemment publié chez Dalloz. Je reconnais que j'ai été un petit peu biaisé dans le choix de cet exemple, mais j'imagine que vous m'en pardonnerez aisément. Rentrons maintenant plutôt dans le vif du sujet, qui est la macroéconomie. Qu'est-ce que c'est? C'est une sous-discipline de l'économie, mais quelle importance lui donner? Est-ce qu'il faut l'enseignement? Est-ce qu'il faut l'enseignement? L'enseigner et implicitement, à quel rang? Quelle est son importance dans le dispositif des sciences sociales et dans le dispositif de l'économie? Je vais faire alors quelques digressions. La première digression, c'est que derrière le genre de questions que je viens de présenter dans le transparent précédent, dans la diapo précédente, il y a une question importante qui est celle de la place des disciplines. Je crois que il ne faut pas se cacher le fait, derrière les débats épistémologiques, qu'il y a des conflits entre disciplines différentes. Et vous, qui êtes étudiant en sciences sociales, vous êtes bien placé pour savoir que dans les sciences sociales, il y a sans arrêt un problème d'évaluation des places respectives, de l'importance des disciplines. C'est ce qui explique pourquoi régulièrement sont proposés dans la littérature proprement scientifique des bilans un peu scientifiques qu'écrivent des gens ou des experts et qui cherchent un petit peu à faire le point d'une discipline. Ces bilans sont importants parce qu'ils permettent un petit peu de répondre à la première question et s'interprètent comme dispositif ou comme élément dans ce combat des disciplines. Et c'est aussi pourquoi ces bilans scientifiques sont importants quand on s'intéresse à l'utilité de rédiger un nouveau manuel, ce qui était l'une des questions que je m'étais posée, et le cas échéant sur l'utilité d'enseigner telle ou telle discipline, à quelque niveau de l'enseignement que ce soit. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui, le premier, qui est la macroéconomie, qu'est-ce qu'il faut en faire, en particulier comment il faut l'enseigner. Donc la macroéconomie encore et toujours. Encore et toujours parce que la macroéconomie a eu une place importante dans l'économie. Je ne voudrais pas dire un passé glorieux parce que ça pourrait signifier que son présent l'est moins, ce qui n'est pas tout à fait mon point de vue. Mais en tout cas, c'est vrai que l'on peut s'interroger sur la question de savoir si la macroéconomie n'est pas passée de mode. Il faut savoir que dans les années 50-60, l'introduction à l'économie se faisait par la macroéconomie. Ça semblait la porte naturelle. Et le manuel emblématique de Samuelson était organisé de cette façon-là. D'abord le cadre macroéconomique, ensuite en extension la microéconomie. Les choses ont changé. La microéconomie a été singulièrement réévaluée. Est-ce qu'il faut en déduire que la macroéconomie est passée de mode ? Ben, à cette question, on peut répondre simplement en disant que les problèmes sont toujours là. Il y a toujours des problèmes macroéconomiques, donc il faut bien avoir quelque chose à dire. Je crois que c'est une réponse insuffisante. C'est insuffisant parce que rien ne nous dit que les problèmes doivent s'aborder de façon macroéconomique ou de la façon traditionnellement associée à la macroéconomie. Je crois que les questions qui se posent sont plutôt où en est la macroéconomie et le cas échéant, s'il y a renouvellement, comment l'apprécier ? Est-il important ou pas ? Et puis, du coup, est-ce que ce renouvellement éventuel modifie-t-il notre compréhension de la macroéconomie et donc, en particulier, notre façon de l'enseigner ? Peut-être que s'il n'y a pas eu de renouvellement, ce n'est peut-être pas nécessaire de consacrer quelques efforts à rédiger de nouveaux manuels ou des manuels présentant des choses bien connues de nouvelles façons. C'est à ces questions-là que je voudrais répondre je crois que vous me semblez être l'auditoire parfait puisque vous vous destinez à la fonction d'enseignement en sciences sociales et que le cas échéant vous aurez à aborder avec vos élèves, qu'ils soient lycéens ou qu'ils soient étudiants, vous aurez à aborder des questions macroéconomiques. Je structurerai donc ma conférence en deux parties. La première sera très simple, quel renouvellement en macroéconomie et donc de la macroéconomie, parce qu'une discipline change en tant que discipline parce qu'il s'est produit des évolutions dans son sein. Et puis la deuxième partie sera comment l'enseigner. Donc ce découpage en deux parties présentera l'opportunité d'une coupure. Et donc, je vous proposerai de me poser des questions à la fin de la première partie, auxquelles je répondrai bien volontiers dans la limite de mon savoir, et puis, mêmement à la fin de la deuxième partie, et ce sera avec vos questions que nous conclurons cette conférence. Voilà. Passons donc maintenant à la première partie. Quel renouvellement de en macroéconomie ? Et c'est donc cette partie qui se présentera sous le bandeau « Renouvellement ». Contrairement à ce que vous pouviez penser, je ne vais pas commencer par des renouvellements d'ordre théorique. Le propos de ma conférence n'est pas en effet de vous faire un résumé hâtif, rapide et donc hâtif, de la macroéconomie, une sorte de cours synthétique où je passerai en revue les différentes nouveautés ou innovations ou le cas échéant progrès que la macroéconomie a fait. Je voudrais plutôt insister sur le changement des perspectives de raisonnement des macroéconomistes parce qu'il me semble que c'est ces renouvellements qu'il faut d'abord faire passer auprès des lycéens et des étudiants. L'idée est que ce qui a changé, c'est un petit peu la façon de procéder, la façon de procéder à l'investigation macroéconomique. Et voilà pourquoi nous parlerons d'abord des renouvellements méthodologiques. Alors, les renouvellements méthodologiques, eh bien, je vais un petit peu les lister, enfin, faire ma liste à moi, et je mettrai au premier rang des changements dans l'ordre du statistique. Ben oui. C'est un petit peu normal. La macroéconomie est une discipline dont on s'accorde à penser qu'elle est apparue dans les années 30. Le terme remonterait aux années 40, se trouverait dans un article de Lawrence Klein de 1945, si je ne m'abuse. Et bien maintenant, nous sommes 60 ans plus tard. 60 ans plus tard par rapport à Lawrence Klein. Et quand Tinbergen fait le premier modèle macroéconomique en 1939, il a évidemment à sa disposition des séries statistiques parfaitement réduites, tant dans les pays couverts que dans les périodes couvertes. Or, maintenant, nous disposons d'un appareil statistique incommensurablement plus développé. Nous avons des séries longues et nous avons des séries désagrégées, beaucoup plus détaillées. Nous avons des séries longues pour un beaucoup plus grand nombre de pays. Qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses. D'abord, les méthodes économétriques ont suivi ce développement du corpus statistique. Nous avons des méthodes économétriques que nous n'avions pas, séries temporelles et données de panel, par exemple. Mais le point important, c'est qu'évidemment, ça nous donne de nouvelles méthodes d'appréhension des phénomènes macroéconomiques. Il est devenu beaucoup plus facile de tester de la véracité ou de la vraisemblance de telle hypothèse proposée par un macroéconomiste. Les effets de vérification sont donc beaucoup plus rapides qu'ils ne l'étaient auparavant. Le temps entre la proposition et la vérification a été raccourci. Évidemment, ça change terriblement l'ambiance d'une discipline et le dialogue qui se noue entre les différents protagonistes actifs, les chercheurs actifs de cette discipline. Je crois que ça entraîne une modification de notre perception de la dynamique économique et je vais vous en donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est ce que l'on appelle l'exemple de la stationnarité ou non de des variables macroéconomiques. On dira qu'une variable est stationnaire lorsqu'elle tend à revenir faire sa moyenne, mean reverting. On dira qu'une variable est non stationnaire lorsqu'elle n'a pas, à la suite d'un choc, tendance à revenir à sa moyenne. Nous disposons maintenant de tests pour apprécier la stationnarité ou non d'une série chronologique, mais pour appliquer ces tests, il faut que cette série soit raisonnablement longue. Tant que nous n'avions pas de données longues, impossible de répondre à la question posée. Évidemment, si nous estimons que une série est non stationnaire, eh bien, ça change terriblement notre conception du cycle économique, de la dynamique économique. Par exemple, nous avons la possibilité alors de penser le changement structurel. Jusqu'à telle date, on était dans tel type de configuration macroéconomique. À partir de telle autre, les choses ont changé. Il n'y a pas eu retour à la situation précédente. On a changé. La situation est non stationnaire. Et du coup, ça nous permet de mieux penser, et le cas échéant, de repérer statistiquement les régimes macroéconomiques. Il n'y a peut-être pas tant une analyse macroéconomique d'une configuration centrale dont les cas pratiques, la France en 1945, les États-Unis en 2002, la Finlande en 1929, ne seraient que des variations. Peut-être qu'il y a des configurations macroéconomiques différentes. Si, tant que nous n'avons pas des données, eh bien, nous ne pouvons pas répondre à ces questions-là. Donc, voilà pourquoi l'accumulation de données statistiques a considérablement modifié notre perception de la macroéconomie et donc notre façon de l'aborder. Deuxième mutation méthodologique, je crois, importante, l'unification formelle des différents champs de la macroéconomie. Vous êtes... Non, peut-être que vous non, parce que justement, vous êtes jeune et à ce titre, vous n'avez pas été exposé peut-être à une conception plus ancienne. Mais traditionnellement, l'on discriminait entre le cycle, la croissance, l'économie internationale, etc., etc. En fait, ces distinctions de champs ou de questionnements sont méthodologiques. Ces distinctions ne sont plus méthodologiquement fondées. Nous disposons d'outils qui sont communément utilisés par tous les macroéconomistes, quel que soit le point de leur investigation, quelle que soit la question qu'ils se posent. Nous avons la possibilité, nous avons fait des progrès dans la façon d'aborder l'optimisation, en particulier l'optimisation dynamique, ce qui nous a permis de traiter les comportements intertemporels. Et ça, ça nous a permis d'unifier le champ d'ensemble, le cadre formel de la macroéconomie, en redécouvrant une contribution datant d'un économiste anglais des années 20, Ramsay, malheureusement très tôt disparu, qui avait déjà perçu la possibilité de développer l'optimisation dynamique et d'avoir une même théorie des comportements, des comportements au cours du temps, ce qui nous a permis d'unifier tout un ensemble de domaines. En particulier, nous avons un même modèle qui nous permet de traiter cycle et croissance. Nous avons un même modèle ou une même gamme d'outils pour traiter monnaie et finances ou pour traiter le chômage et les flux d'emploi. Alors, ça a l'air de rien, mais imaginez-vous à la place d'un plombier. Soit il y aurait deux configurations. Une configuration, il aurait sa boîte à outils pour traiter les chaudières, une autre boîte à outils pour traiter les radiateurs et une troisième boîte à outils pour traiter les robinets. Évidemment, il lui faut un gros camion. Et un gros camion, ça ne passe pas partout, c'est lent et on ne sait pas très bien, le cas échéant, on se gourre, on se trompe d'outils. Prenez le même plombier et mettez-le maintenant avec des outils plus performants, une même boîte à outils qui lui permet de traiter à la fois et les problèmes de chaudière, de radiateur et de robinet. Eh bien, évidemment, il est plus polyvalent. Et il passe plus rapidement, il a besoin d'un camion plus grand, plus petit plutôt, plus mobile, et il voit mieux, il n'a pas à se spécialiser dans les problèmes de radiateur. Il peut voir en une seule intervention des problèmes liés à la chaudière et au radiateur. Et donc, ce gain méthodologique est un gage d'une plus grande productivité de la recherche, nous dirons en termes moins industrieux, d'une plus grande fécondité du chercheur. Cette unification a été un élément fondamental dans le développement de la macroéconomie. Troisième point, mais qui est lié, vous le sentez bien, au premier, c'est le fait d'un recours systématique à la théorie de la décision. D'une certaine façon, pour caricaturer, nous dirons que l'économie, sa spécificité dans les sciences sociales, c'est de disposer d'une grille de lecture des problèmes de décision individuelle. Je ne sais pas si c'est la bonne grille de lecture, je ne sais pas si elle s'applique à tout, je ne sais pas à quel point elle est puissante, mais je sais qu'elle est. Et c'est de la spécificité de l'économiste. Eh bien, il y a unification non pas seulement des champs de la macroéconomie, mais il y a unification de l'économie autour d'un recours systématique à cette théorie de la décision ou encore à l'analyse des comportements d'optimisation individuelle. En matière de macroéconomie, ça s'est traduit par quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, c'est-à-dire c'est la recherche des fondements microéconomiques de la macroéconomie. Et l'idée est qu'une enquête macroéconomique devait s'articuler, le cas échéant, se fonder sur une compréhension des décisions des agents eux-mêmes qui seraient à la base du fonctionnement de l'économie. Cette idée a été discutée. Je ne vais pas rentrer dans la controverse, je la crois pas nécessairement bien posée. Je voudrais simplement faire les remarques suivantes. Le premier, c'est un passage obligé. À partir du moment où la spécificité de l'économie, il est admis que c'est une analyse de la décision individuelle par le biais d'une analyse de la rationalité individuelle, de l'optimisation, de l'arbitrage, eh bien, il est logique que ce noyau dur soit exporté et appliqué dans toutes les disciplines ou dans toutes les interrogations de l'économie, en particulier la macroéconomie. C'est une vieille exigence. Elle remonte au moins à Patinkin, 1956, Patinkin, qui cherchait, économiste israélien, qui cherchait simplement à mieux comprendre et mieux systématiser l'apport keynésien. Et déjà, il avait cherché à revenir aux fondements microéconomiques. Le point important, c'est que ce n'est pas seulement un argument d'autorité que j'utilise, Patinkin, s'il le faisait, c'est surtout parce que la logique de la recherche des fondements microéconomiques est en conformité avec la logique même de l'agrégation. Or, agréger, raisonner sur agrégat, c'est bien une spécificité macroéconomique. Mais agréger, c'est agréger quoi? C'est bien agréger des unités, c'est bien agréger des comportements, c'est bien agréger des relations. L'agrégation même, qui est au cœur du dispositif ou du projet macroéconomique, implique que les unités de base soient quelque part prises en compte. Du coup, cette unification du champ nous amène, quatrième point, à un élément extrêmement intéressant. C'est une meilleure intégration de la macroéconomie avec d'autres branches de l'économie. Si les macroéconomistes parlent, mutatis mutandis, le même langage que d'autres économistes, les économistes de la santé, les économistes de l'environnement, les économistes de la demande, les économistes de l'économie industrielle, eh bien, il y aura possibilité d'échange et donc il y aura possibilité d'importation dans la macroéconomie de dispositifs théoriques empruntés à d'autres sous-disciplines de l'économie. Cette meilleure intégration est là encore gage de plus grande fécondité, d'une plus grande capacité à atteindre de nouveaux objets et à investiguer de nouvelles questions. Ah. Ce petit déplacement augure mal, je ne sais pas d'où il vient. En tout cas, cette intégration, le premier exemple de l'intégration réussie de la macroéconomie avec d'autres dispositifs connus en économie, je le prendrai dans l'équilibre général. L'équilibre général est traditionnellement enseigné comme un chapitre d'un cours de microéconomie. Eh bien, tout à fait logiquement, à partir du moment où on a des explicitations des comportements microéconomiques en macroéconomie, il devient tout naturel pour le macroéconomiste de chercher à combiner ces comportements dans une logique d'équilibre général. Cette intégration, là encore, elle remonte à loin. Là encore, je fais référence à Allais, qui est en fait le fondateur longtemps ignoré et méconnu du modèle à génération imbriquée. Je remonte à Allais, pas tant pour utiliser un argument d'autorité que pour vous faire sentir à quel point cette intuition de l'utilité de l'outil de l'équilibre général et se trouve tôt dans l'investigation macroéconomique. Mais je pourrais citer bien d'autres noms, mais rapidement, voyons-les ensemble, ils vous disent quelque chose ou non. Samuelson, c'est encore le modèle à génération imbriquée appliqué au problème de la monnaie, permettant d'avoir un comportement microéconomique en matière de demande de monnaie. Diamond, c'est encore un modèle à génération permettant de mieux comprendre l'accumulation du capital et, le cas échéant, les problèmes de dysfonctionnement en matière d'accumulation du capital. Drez, dans les années 70, nous avons, je mentionne deux noms, ceux de Drez et de Benassi, comme représentatifs de ce que l'on a appelé l'école, la théorie des déséquilibres, qui avait, et les deux contributions que je mentionne sont deux contributions qui ont cherché à mieux fonder l'enquête keynésienne sur des comportements microéconomiques explicités et qui leur ont permis de développer la notion d'équilibre général à prix fixe. Mais je dois aussi, et peut-être surtout, puisque c'est de tous ces auteurs l'un des plus féconds en macroéconomie, mentionné Lucas dans son article de 72, qui est encore un modèle à génération et qui va poser le problème de la politique monétaire dans un cadre d'équilibre général. Ayant cité Lucas, ben, peut-être que je pourrais citer Phelps, le dernier prix Nobel d'économie, qui est représentatif de cette recherche de fondement microéconomique à la macroéconomie. Il y a d'autres dispositifs que l'équilibre général. La macroéconomie, parce qu'elle explicite les comportements économiques, peut traiter de façon progressive, au sens fécond, l'économie de l'incertitude et du risque. Et je limite là mes exemples, je pourrais les généraliser, les développer. Ce que je crois, c'est que cette intégration de la macroéconomie dans l'ensemble de l'économie et de l'unification peut-être méthodologique de l'économie représente pour la macroéconomie une chance. C'est une intégration qui ouvre et qui, non pas qui referme. Ce n'est pas que la macroéconomie va voir son influence ou son importance relative. Je vous rappelle, renvoie à ce que je disais sur les conflits des disciplines. Je ne crois pas que cela signifie que la macroéconomie va et que les macroéconomistes doivent s'inquiéter de voir, entre guillemets, leur influence ou leur, entre guillemets, importance diminuer. Au contraire, je pense que c'est une chance, c'est quelque chose qui leur permet de poursuivre un développement vers de nouvelles questions et ils n'ont pas à craindre une disparition dans un grand ensemble magmatique et qui serait l'économie entendue, la microéconomie. Il y a des nouveaux champs qui s'ouvrent pour la macroéconomie. Et là, je vous en liste quelques-uns, mais qui n'existaient pas il y a 30 ans, ou peut-être même 20 ans. Oui, nous avons les macroéconomistes, il y a des analyses macroéconomiques, des problèmes d'environnement. Oui, il y a des problèmes, des analyses macroéconomiques, des problèmes de protection sociale, de retraite, et d'une certaine façon, voit-on un meilleur exemple de problème macroéconomique devant être traité macroéconomiquement que celui de la protection sociale et des retraites. Il y a aussi, du coup, la possibilité de se poser la question du rôle des institutions, en particulier dans la logique de la croissance. Quel rôle jouent les institutions, c'est-à-dire une sorte de socle sur lequel s'élaborerait les stratégies et les décisions des économistes? Est-ce que ces institutions ont un rôle dans la dynamique de l'accumulation des capacités productives et donc de la croissance? Mais aussi l'économie politique. Économie politique, je l'entends au sens néologique du terme, c'est-à-dire l'économie du politique, l'économie de la décision politique, sachant bien évidemment que dans nos sociétés, et probablement heureusement, la décision politique est de plus en plus une décision qui porte sur l'économie et sur des dispositifs économiques. Je dis heureusement parce que pendant très longtemps, les décisions politiques ont porté sur la guerre. Et je crois qu'il vaut mieux avoir des politiques qui s'intéressent au commerce que des politiques qui s'intéressent à la guerre. Mais d'une certaine façon, vous pourriez me répondre que la guerre est en soi un problème économique. Nous laisserons ce point important de côté et nous continuerons, sachant que maintenant la macroéconomie est en mesure de s'intéresser à bien des choses auxquelles elle ne pouvait pas s'intéresser auparavant. Venons-en au renouvellement théorique. D'accord. Après cette liste de renouvellements, par prudence, je m'interdis de parler de progrès, mais si vous me poussiez dans mes retranchements, je voudrais bien me laisser, vous arriveriez assez rapidement à me faire substituer au terme de renouvellement le terme de progrès méthodologique. Abordons maintenant des renouvellements théoriques. Alors là, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas sûr qu'on puisse si facilement parler de progrès. Je ne suis pas sûr que Friedman soit un progrès par rapport à Ricardo, ni que l'on en sache plus, ou l'on soit plus savant, ou que l'on soit plus astucieux qu'Adam Smith. Mais je sais que nous nous posons des questions qu'Adam Smith pouvait avoir intuitées, mais qu'il n'avait pas développées. Et nous pouvons revenir sur des problèmes qu'Adam Smith se sont posés avec nos instruments nettement plus puissants. Je vais uniquement me concentrer sur la question du cycle et du dilemme inflation-chômage. La macroéconomie, c'est beaucoup plus que ça. Mais admettons qu'il y a là une sorte de spécificité due à l'actualité du problème. Jour après jour, en lisant nos journaux, eh bien, nous sommes confrontés au problème de l'inflation et du chômage, peut-être plus qu'à celui de l'impact de la démographie à long terme sur la croissance française. Problème certes intéressant, mais qui ne nous préoccupe pas mois après mois. Donc essayons, on s'en tiendra là à l'analyse aux questions du cycle et du dilemme d'inflation-chômage, et peut-être que là, avec ce problème, ce domaine de l'analyse macroéconomique, on a la possibilité de voir peut-être mieux que dans d'autres comment sont à l'œuvre les progrès méthodologiques ou les renouvellements méthodologiques que j'ai évoqués plus tôt. Et c'est peut-être ces renouvellements théoriques qu'il faut s'attendre à trouver dans tel ou tel nouveau manuel. Premier point, je dirais que nous avons des controverses renouvelées. Alors, dans ce terme, il y a deux termes. Dans cette expression, il y a deux termes. Il y a controverse, c'est-à-dire on n'est toujours pas d'accord, et renouvelé, ce qui veut dire qu'on n'est pas d'accord, mais pas toujours en utilisant les mêmes arguments. Par « on », j'entends les macroéconomistes qui s'intéressent au problème. C'est un collectif. Le point de départ de ce renouvellement de la controverse, bon, j'imagine que là, vous êtes familier de tout ça, que vous avez vocation à le devenir dans un espace, dans un laps de temps réduit. Je partirai évidemment de la synthèse néoclassique, celle qui s'était développée dans les années 50-60 et qui, additionnée de la courbe de Phillips, a laissé penser aux macroéconomistes à un moment qu'ils disposaient des outils pour traiter du dilemme inflation-chômage et savoir comment réguler le cycle avec des outils de politique économique convenablement gérés. Cette synthèse a été soumise à critique, et ces critiques, il est commode de les distinguer en trois temps. Il y a le premier temps, c'est le temps de Milton Friedman, qui, dans les années 60, développe d'abord une critique de l'activisme en matière de politique économique, puis une critique du poids relatif de la politique budgétaire face à la politique monétaire, et une autre conception de la politique monétaire, et enfin aboutit, relayant Phelps, à une critique de la courbe de Phillips, telle que naïvement, elle avait été, naïvement, pas si naïvement que ça, en tout cas, simplement, elle avait été obtenue des travaux de Phillips par Samuelson et Solow. Cette critique qui va donner lieu au monétarisme et à l'idée que la bonne politique monétaire est une politique de contrôle des agrégats monétaires va être relayée par les nouveaux classiques autour de Lucas, et Lucas qui va mobiliser le concept d'anticipation rationnelle. Et les nouveaux classiques, je vous le rappelle rapidement, vont poursuivre la critique de l'activisme en matière de politique économique, en particulier monétaire, en particulier en mobilisant un appareil méthodologique beaucoup plus sophistiqué que Friedman. D'une certaine façon, Friedman n'en avait pas. Son analyse était purement discursive et ne se faisait pas avec l'appui d'un modèle. Au contraire, les nouveaux classiques vont avoir un appareillage beaucoup plus sophistiqué. Je vous mentionnais l'article de Lucas de 72, qui est un article qui développe un modèle d'équilibre général avec monnaie et anticipation et choc, ce qui l'amène à développer les anticipations rationnelles. Et ceci l'amène à s'opposer à l'idée que l'on peut, par une politique monétaire anticipée, chercher à réguler le cycle. Et le troisième temps, c'est le temps de l'école des cycles réels, qui, là encore, s'appuie sur la contribution de Lucas et l'idée d'avoir une théorie des fluctuations économiques conforme avec l'idée que les marchés fonctionnent à l'équilibre, ce qui était la vieille intuition des classiques d'avant Keynes et en particulier de Hayek. Ce que font les cycles réels, c'est développer un modèle d'équilibre général stochastique appliqué à la macroéconomie, d'une certaine façon prenant acte de la coupure introduite par Lucas et donc éliminant la monnaie comme étant de peu d'influence sur le cycle pour essayer de reconstituer une dynamique économique qui serait en mesure de capturer les faits stylisés ou un grand nombre de faits stylisés associés empiriquement au cycle économique. Voilà ces trois temps de la critique de la synthèse néoclassique ou encore de l'activisme keynésien aboutissent à une théorie du cycle à l'équilibre, c'est-à-dire conforme avec l'équilibre à l'hypothèse d'équilibre des marchés, et qui met du coup à l'origine de l'ensemble des fluctuations économiques des problèmes informationnels liés à l'occurrence de chocs. La persistance étant dans ce cadre expliquée uniquement par des contraintes technologiques, time to build, pour reprendre l'expression de Kidland et Prescott qui ont fondé la théorie des cycles réels. À cette critique correspond une contre-critique et Mankiw, l'un des auteurs, un auteur d'un manuel américain actuellement très utilisé, parle même d'un mouvement contre-révolutionnaire, dans la mesure où on avait parlé de la révolution des anticipations révolutionnaires. Je serais plus neutre, je m'en tiendrais à la notion de contre-critique et à la riposte nouvelle keynésienne sur, pour la compréhension des phénomènes de dynamique de court terme, des phénomènes de cycle. Eh bien, cette riposte néo-keynésienne va, là encore, prendre acte de ce qui a été produit par les macroéconomistes néoclassiques, nouveaux classiques, les anticipations rationnelles, l'explicitation des fondements microéconomiques et du coup la constitution de modèles d'équilibre général dynamique et stochastique. Mais les nouveaux keynésiens vont mettre en avant l'imperfection dans les ajustements de marché, la notion de rigidité conforme et compatible avec les anticipations rationnelles. Et du coup, c'est ce qui va leur permettre de dire que ce sont les rigidités réelles ou nominales qui sont à l'origine des problèmes du cycle et non pas des problèmes informationnels, le cycle étant compatible là maintenant à une logique de déséquilibre. Les rigidités étant appréciées par rapport à l'équilibre général sans friction. Donc maintenant, nous avons des équilibres généraux avec friction, et ce sont les équilibres que développent les nouveaux keynésiens. Ayant réussi cette mue méthodologique, eh bien, les nouveaux keynésiens vont alors un petit peu exporter leur savoir-faire, ou en tout cas exporter l'idée qu'il y a des imperfections ou des rigidités à d'autres types de marchés, en particulier les marchés financiers ou les marchés du travail. Donc voilà la controverse renouvelée. Où en est-on? Eh bien, vous avez senti qu'il y avait en fait dans cette suite de contributions un dialogue qui se faisait et progressivement l'acceptation d'avancées méthodologiques, que ce soit les anticipations rationnelles, que ce soit le cas échéant que les rigidités, que ce soit l'idée de modèle d'équilibre général. Du coup, on peut se poser, la question de savoir s'il n'y a pas un consensus, si la macroéconomie ne s'oriente pas vers un consensus, ou encore ce que certains appellent la nouvelle synthèse néo-keynésienne. Et je crois que c'est à peu près le temps dans lequel nous sommes actuellement, ce temps de l'investigation d'une nouvelle synthèse néo-keynésienne, comme dans les années 50 et 60, s'était fait un consensus autour d'une synthèse néo-keynésienne, avec néoclassique, pardon, avec l'idée qu'il y avait une validité des enseignements classiques, néoclassiques sur le long terme et une validité des arguments keynésiens sur le court terme. Est-ce que nous assistons maintenant à une nouvelle synthèse ? Bien, oui, dans la mesure où il y a consensus méthodologique sur l'utilité des modèles d'équilibre général dynamique stochastique. Oui, dans la mesure où tout le monde est d'accord maintenant pour penser que la monnaie est la dimension nominale, par monnaie il faut entendre la dimension nominale de l'économie, est indispensable pour comprendre le cycle économique, la dynamique économique, et que certes les chocs technologiques jouent un rôle, mais probablement un rôle à plus faible fréquence que celle que l'on constate dans le cycle. Et troisième point, il y a convergence dans l'idée que, oui, les marchés fonctionnent, mais dans une logique de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ajustement parfait et immédiat du vecteur des prix aux conditions d'offre et de la demande, de façon à assurer l'équilibre général valrassien. Nous avons également, quatrième temps de ce consensus, nous avons une sorte d'accord qui s'est fait autour d'un lieu commun qui serait la courbe de Phillips néo-keynésienne, une sorte de formulation de la courbe de Phillips, c'est-à-dire du dilemme inflation-chômage, de la relation entre le taux d'inflation et l'écart de production, ou l'écart de chômage par rapport à son niveau naturel. Nous aurions une relation qui serait micro-fondée et qui permettrait de penser ce dilemme inflation-chômage. Cette courbe de Phillips néo-keynésienne a pour spécificité l'idée qu'elle intègre un terme d'anticipation de l'inflation future et non pas seulement un terme d'anticipation de l'inflation présente. Il y a donc une économie qui est maintenant tournée vers le futur et la dimension intertemporelle de la macroéconomie ne peut être remise en cause et il faut, dans le présent, avoir à gérer le futur. C'est cela que veut dire l'idée que la macroéconomie est prospective ou elle est encore qu'elle est tournée vers le futur. Et du coup, dernier élément du consensus qui se formerait chez les macroéconomistes, un consensus sur la microéconomie du marché du travail, c'est-à-dire que en dessous du chômage comme solde net, il y a des flux bruts sur le marché du travail venant de du besoin de l'appariement entre l'offre de travail et la demande de travail, l'offre de travail par les ménages, la demande de travail par les entreprises, ou encore l'idée qu'il y a simultanément des entreprises qui sont en recherche de travailleurs, qui postent, qui affichent des vacances de poste, et puis il y a de l'autre côté des offreurs de travail qui sont à la recherche d'un emploi. Et l'idée que derrière les flux nets, il y a des flux bruts, il y a ce perpétuel réaménagement du dispositif productif qui explique beaucoup du fonctionnement du marché du travail. Eh bien, derrière cette idée, je crois qu'il est sur cette idée, il s'est maintenant fait un consensus. Ceci étant dit, ce consensus, eh bien, il reste fragile et je crois l'avenir dira si je me suis trompé. Je crois qu'il est susceptible de bouleversements à terme et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la macroéconomie s'établisse dans une stase autour de ce consensus dont je viens de mentionner les principaux éléments. Ce consensus est fragile, selon moi, essentiellement parce que la théorie des imperfections des marchés est encore elle-même fragile et assez mal fondée microéconomiquement. Bien sûr, il y a une explicitation de comportements microéconomiques, mais cette explicitation se fait toujours en supposant, en faisant des hypothèses très ad hoc et pas nécessairement fondées dans les faits. Et donc, c'est ce qui me permet de penser que la théorie des rigidités est peut-être actuellement encore en voie de progrès ou encore actuellement mal articulée. Ceci étant dit, laissons le futur trancher dans ces débats sur la longévité du consensus actuel. Essayons un petit peu de voir quels sont les acquis de la nouvelle macroéconomie. Et là, je fais référence à l'excellente contribution d'Antoine Dautume dans l'ouvrage en plusieurs volumes de Béraud et Facarello consacré à la macroéconomie. La contribution d'Antoine Dautume est consacrée à la macroéconomie. Donc, quels sont actuellement, je dirais, les acquis ? Et je vais revenir à ma partie méthodologique par laquelle j'avais commencé. Quels sont les acquis de la nouvelle macroéconomie ? Et après, on peut penser qu'on verra ce qu'il reste à faire. D'abord, il y a une admission du cadre impulsion-propagation proposé par Ragnar Frisch en 1933. Ragnar Frisch, fondateur de la Société d'économétrie, qui disait pour penser la dynamique économique, il faut d'une part supposer qu'il y a des chocs exogènes et d'autre part que le système économique et l'interaction entre les agents aboutit à une structure de l'économie qui agit comme une propagation des impulsions aléatoires, celles que représentent les chocs. Je crois que ce cadre est généralement admis. Il n'est pas unanimement admis. Il y a encore des macroéconomistes qui travaillent hors de ce cadre et il faut s'attendre à des contributions d'un grand intérêt de leur part. Mais pour le moment, il faut bien admettre que leur contribution est minoritaire. Il est acquis que la macroéconomie est une macroéconomie dynamique, intertemporelle et donc prospective, que les décisions d'aujourd'hui par les agents se font en fonction de leurs anticipations de ce qui se passera plus tard dans le temps. En d'autres termes, qu'il y a des effets de substitution intertemporelle. Et là, c'était un petit peu les vieilles intuitions de Friedman, mais aussi de Lucas et Rapping en 1969, qui sont maintenant, qui font partie de l'incontesté. Et du coup, trois éléments, l'idée que les comportements des agents sont stratégiques et que, puisque maintenant nous avons explicité les comportements des agents et que la macroéconomie, c'est un petit peu l'étude de leur interaction, eh bien, pour bien comprendre cette interaction, il faut la poser dans un cadre de théorie des jeux. Et la macroéconomie utilise de plus en plus l'appareil de la théorie des jeux ou encore un dispositif stratégique pour comprendre cette interaction et pour comprendre comment les agents réagissent les uns aux autres. Et c'est tout le champ de l'économie, c'est toutes les résultats de l'économie des jeux qui sont susceptibles d'être importés en macroéconomie, comme ils l'ont été en économie industrielle ou en économie de la santé. Voilà un acquis substantiel, ce qui a permis à Olivier Blanchard, économiste au MIT, dans une contribution récente du Quarterly Journal of Economics, d'avancer l'opinion suivante, et opinion qui n'est pas vraiment discutée, qu'il présente plutôt comme un état de fait. Aujourd'hui, la division idéologique, entre parenthèses, sous-entendue entre macroéconomistes, a disparu. Non pas dans le sens où les macroéconomistes auraient tous les mêmes a priori idéologiques ou les mêmes points de départ idéologiques. Mais dans le sens suivant, dans le sens où si on essayait de représenter, de cartographier le développement de la macroéconomie par des distinctions, par des lignes de fracture idéologiques, eh bien on n'arriverait à rien. Aujourd'hui, la plupart des macroéconomistes s'intéressent aux implications macroéconomiques de telle ou telle imperfection. Et d'une certaine façon, quand on regarde la recherche macroéconomique telle qu'elle se fait à la frontière, on s'aperçoit que le champ est, de façon surprenante, aidéologique. Et ça, c'est certainement quelque chose que l'on ne pouvait pas dire il y a encore 20 ans. Et je m'aventure à penser que ce n'est pas la perception que vous avez de la macroéconomie. Pour vous, la macroéconomie, c'est assez facilement encore un affrontement d'écoles. Il y a l'école A, l'école B, l'école C, l'école D. Et puis, elles ne sont pas d'accord. Et de cette façon, chacune a une position ou une perspective si nette qu'il est difficile d'établir un dialogue. On ne peut que opposer des messages purement contradictoires. Ce que dit Blanchard, c'est que cette vue est dépassée. Et on peut en discuter, mais je crois que c'est un point de fait. Si l'on avait à faire un sondage auprès de macroéconomistes, pensez-vous que l'opinion exprimée dans ces quelques lignes par Olivier Blanchard est conforme et vraie ou non? Je pense qu'une grande majorité d'entre eux dirait oui. Ceci étant dit, ce consensus ouvre de nouvelles voies de discussion. Je crois que la macroéconomie ne va pas s'arrêter. D'abord, il y a, je vais noter quelques points, quelques perspectives de débat. D'abord, la macroéconomie utilise un cadre très linéaire pour traiter des dispositifs de propagation. Il n'est pas sûr que ce cadre linéaire soit très opérant et très fécond. Peut-être qu'il va falloir poser des questions de non-linéarité. La non-linéarité peut certainement s'articuler avec une question d'indétermination. C'est-à-dire l'idée que, il y a plusieurs scénarios macroéconomiques envisageables à partir d'une situation donnée et que l'avenir n'est pas écrit. D'une certaine façon, pourquoi ne serait-il pas écrit ? Eh bien, parce que les anticipations sont prospectives et le fait que l'agent soit tourné vers le futur fait que le futur n'est pas si bien écrit ou pas écrit de façon univoque comme on peut et on pourrait souhaiter de le penser, en tout cas pour notre tranquillité d'esprit. Ah, non. Et du coup, ça nous amène à la possibilité qu'il y ait des équilibres multiples, ce qui est une discussion très discutée en économie actuelle. Je le mentionne simplement pour vous dire que la controverse continue. Ou en tout cas plutôt la recherche continue et que le consensus n'est pas un glacis. Voyons, troisième temps dans cette partie sur les renouvellements, voyons les renouvellements pour la politique économique. On a vu des renouvellements méthodologiques. On voit des renouvellements théoriques qui amènent à un consensus et ce consensus est très différent de celui que l'on pouvait avoir ou former il y a 30 ans. 40 ans. Cela amène-t-il à un changement dans la perception, dans l'analyse et le cas échéant, dans la conduite de la politique macroéconomique ? Puisque d'une certaine façon, pour beaucoup, ce qui rend la macroéconomie un petit peu, vous me pardonnerez le terme, sexy, c'est que elle a des implications concrètes et que le macroéconomiste se voit facilement comme conseiller du prince. Je vais revenir à Mankiw, qui a très récemment, en juin de 2006, avancé une opinion assez iconoclaste, qui est « ben non ». À la réponse, tous ces renouvellements modifient-ils notre perception, notre conduite de la politique macroéconomique ? Réponse de Mankiw, non. Et Mankiw le dit en disant « à partir de son expérience d'universitaire ayant eu à partie, ayant participé au débat de politique économique à un niveau décisionnel, puisqu'il fit partie du Council of Economic Advisers de Bush Junior, si je ne m'abuse. La triste vérité est que la recherche macroéconomique des 30 dernières années n'a eu qu'un impact négligeable, mineur, sur l'analyse pratique et implicitement la conduite de la politique monétaire et fiscale. Ah, bon, c'est un peu curieux. Je vous donne la référence, si vous voulez vous reporter à l'article lui-même. C'est un document de travail du NBER. Personnellement, je pense que, comme souvent les thèses iconoclastes, elle a pour intérêt de nous faire réfléchir, mais pas nécessairement pour conséquence de nous convaincre. Je pense effectivement que c'est une thèse peu convaincante parce qu'elle est insuffisamment fondée, et je vous renvoie à l'article du NBER pour vous faire vous-même votre propre idée sur la justification que présente Mankiw à l'appui de sa thèse. Je crois, je vais vous en donner quelques exemples rapides. En matière de politique monétaire, eh bien, outre même la question de l'indépendance des banques centrales, ce que l'on constate, c'est que de plus en plus, les banques centrales ont adopté comme stratégie pour penser et mener leur politique économique ce qu'on appelle le ciblage d'inflation, inflation targeting. Et on en est à peu près entre 20 et 30 banques centrales dans le monde qui pratiquent le ciblage de l'inflation. Or, il se trouve que ce ciblage d'inflation s'avère plus efficace pour combattre l'inflation dans les pays émergents. Les pays qui ont adopté le ciblage d'inflation sont des pays pour lesquels l'inflation est plus faible. Dans tous les pays, l'inflation au cours des années 90, depuis les années 90, s'est considérablement réduite. Mais les pays à ciblage d'inflation ont une inflation plus faible. Or, je crois que, et je suis même sûr, le ciblage d'inflation est directement issu des réflexions sur l'incohérence temporelle qui découle des travaux, par exemple, des nouveaux classiques et de Kidland Prescott. Des réflexions sur la crédibilité. Deuxième exemple, la politique monétaire. Eh bien, je crois que les banquiers centrales, indépendamment même du ciblage d'inflation, pensent de plus en plus leur politique en référence à ce que l'on appelle le biais inflationniste, mais aussi le biais de stabilisation. Et le biais inflationniste est issu des travaux sur la crédibilité de Kidland Prescott. Le biais de stabilisation est issu de la nouvelle synthèse et de la courbe de Phillips néo-keynésienne. Et il se trouve que les banquiers centraux pensent de plus en plus leur stratégie en fonction de ces biais. En matière budgétaire, je crois que la question des financements de la dette publique joue un rôle bien plus important qu'il y a une trentaine d'années, et les responsables ne s'en tirent pas par une référence un petit peu rapide à la magie des multiplicateurs ou à un quelconque théorème d'Alvelmo pour expliquer que non, la dette n'est pas un problème. Je crois qu'on s'intéresse de plus en plus, et on a raison de le faire, à la soutenabilité de la dette publique. Mais la soutenabilité de la dette publique, nous pouvons la penser parce que nous avons adopté une analyse intertemporelle des comportements de financement, et je mentionne l'équivalence ricardienne comme étant l'un des exemples de cet souci ou de cette capacité à utiliser la perspective intertemporelle pour penser la politique macroéconomique. Autre exemple, l'ajustement budgétaire. L'ajustement budgétaire, c'est une notion, c'est une expression codée que vous n'avez pas rencontrée probablement, et qui consiste à faire valoir l'existence d'un contre-multiplicateur. C'est en réduisant le déficit public, c'est en ordonnant les finances publiques que l'on obtiendrait un retour de la croissance, parce que, quelque part, l'idée étant qu'en mettant la maison fiscale et budgétaire en ordre, eh bien, on assainit l'horizon des agents et ceci, ayant plus confiance, relance la dynamique de l'investissement. Long, il se trouve qu'il y a quelques cas macroéconomiques qui vont dans le sens de l'ajustement budgétaire. La question n'est pas de savoir si c'est toujours vrai, quand est-ce que c'est vrai, etc. La question est de, ici, pour ce qui m'intéresse, c'est de dire que cette pensée de l'ajustement budgétaire n'est encore pensable que par les progrès de la macroéconomie, les renouvellements méthodologiques que j'ai mentionnés. Enfin, je mentionnerai deux autres cas. La politique structurelle, la réforme du marché du travail en Allemagne ne peut se comprendre, quoi qu'on en pense, quelle que soit la façon dont on l'évalue, en particulier d'un point de vue normatif ou du point de vue de l'équité, eh bien, elle ne peut pas se penser si l'on n'a pas conscience que les responsables de cette réforme étaient informés des nouvelles approches du fonctionnement du marché du travail. Et enfin, dans un autre ordre d'idées, mais toujours sur la politique structurelle, le consensus de Washington a été récemment remis en cause. Eh bien, cette remise en cause vient de la due à la reconnaissance du rôle des institutions. Et cette reconnaissance du rôle des institutions dans la macroéconomie est peut-être l'une des avancées méthodologiques de ces dernières années. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie. Et je vous propose de me poser des questions.